Fréquence Magique.
Fréquence Magique.
17h30, 18h. Bienvenue au Studio Magique. Studio Magique. Sébastien Lecoeur.
Et c'est avec un immense honneur que j'accueille notre invité Studio Magique aujourd'hui, Monsieur Pierre Bellemare, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous consacrer quelques instants, notamment pour parler de ce livre Trahison que vous co-signez avec Jean-François Namias aux éditions Flammarion. On va en parler dans un instant, mais d'abord, comment on vous présente ? Animateur, producteur, écrivain, chanteur un petit peu également, comment vous, vous vous définissez ?
Bon, je ne sais pas, je me définis comme un jeune homme qui, après-guerre, ne savait pas du tout mettre ses pieds, parce que dans une seule année, il avait perdu sa mère, il avait raté son bac, il avait rencontré sa première femme, ce qui fait beaucoup, et il fallait absolument qu'il travaille. Il avait la chance d'avoir un beau-frère, qui était un homme de radio, qui s'appelait Pierre Yégel, qui lui a tout appris, et c'est en suivant son beau-frère qu'il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, voilà.
On a eu l'impression que vous avez mille et une vies médiatiques. Cette boulimie, c'est quoi ? C'est des hasards à chaque fois ou c'est une volonté de votre part de toucher un petit peu à tout, tout essayer ?
Ah non, ça, alors là, vraiment, j'ai été vers des choses qui m'intéressaient, bien sûr, quand j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais sinon, il y a beaucoup de hasards dans notre métier, beaucoup, beaucoup. Il y a des rencontres comme ça, on rencontre quelqu'un, on ne s'y attendait pas du tout, cette personne a un vrai contact avec vous et d'un seul coup, cela va devenir une œuvre. Une émission, une chanson, tout ce qu'on voudra, bon, voilà.
Vous faites partie du patrimoine quand même. Aujourd'hui, quand on parle de personnages, de monstres sacrés, c'est des termes qui vous font peur, qui vous flattent ?
Non, mais j'ai l'âge du patrimoine, j'ai 86 ans.
Et en plus, vous connaissez, alors c'est vrai que là, vous êtes venu à la rencontre du public. Ce qui est fascinant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toutes les générations. Certains vous connaissent pour La tête et les jambes, La caméra invisible. D'autres peut-être pour Vous êtes fantastique, Vous êtes incroyable, pardon. Vous avez aussi la jeune génération, peut-être pour les histoires sur NT1, peut-être pour les chroniques avec Cyril Hanouna. Vous avez traversé le temps, 60 ans de radio, de télévision. Un vrai caméléon parce que vous êtes finalement adapté à l'évolution de ce média, de la télé, de la radio.
Oui. Enfin, j'ai quand même de meilleurs souvenirs des débuts de la télévision que de la télévision d'aujourd'hui. J'entends par là que lorsque vous inventez quelque chose, quand vous créez quelque chose, et là, en l'occurrence, avec mes copains de l'époque, nous avons inventé la télévision. C'était évidemment beaucoup plus passionnant qu'aujourd'hui, où on ne fait que des séries pour la télévision. Donc, c'est devenu affreusement commercial, et renouveau. À notre époque, ce n'était pas du tout commercial. D'ailleurs, je le rappelle, il est très important de le savoir, nous ne gagnions pas notre vie à faire de la télévision. Hein. On était payés des clopinettes. Mais par contre, on nous donnait tous les moyens techniques, tous les décors, tous les comédiens, tout ce qu'on voulait. C'était absolument extraordinaire. Mais en tant que bénéfice pécunier, je dirais, bon, c'était pas du tout valable. Mais c'était tellement formidable d'avoir toute cette technique, tous ces moyens à notre disposition que vraiment, c'est pour moi mon meilleur souvenir malgré tout.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de chaînes. On peut se dire qu'il faut être de plus en plus créatif et on a l'impression qu'on l'est de moins en moins, alors que quand il y avait l'époque d'une chaîne, on avait mille idées, on était extrêmement créateur.
Oui, parce que, il faut bien le dire, l'économie est entrée dans cette affaire. À l'époque, lorsqu'on crée la télévision, c'est l'État qui est propriétaire de tout et il n'est pas économe, l'État, à cette époque-là. Il ne faut pas oublier qu'on est après la guerre, hein, c'est pas très loin. Hein. Moi, je commence en 54. Vous voyez, la première émission que je fais, c'est en 54. Donc, on est encore à 10 ans de la guerre, à 10 ans de la fin de la guerre pour nous, hein, puisque on considère que la guerre a été finie pour nous à fin 44, en gros. C'est vrai que, je sais pas, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et on nous donne tout ce que l'on veut. On a une idée, on va l'exposer et on nous dit, ben voilà, oui, vous avez les moyens. Je vais vous donner un exemple parce qu'il est absolument extraordinaire. Nous décidons, dans une émission qui était d'ailleurs La tête et les jambes, de faire voir aux téléspectateurs où était située, dans la Sainte-Chapelle à Paris, qui a été construite pour ça, par Saint-Louis, où étaient situés les trophées qu'il avait ramenés de la Palestine. Alors, il y avait un morceau de la vraie croix, il y avait une vraie épine, enfin des tas de couillonnades. Puis, il s'était fait avoir complètement. Mais peu importe. La chapelle avait été débarrassée de cela parce qu'on avait peur qu'on les vole. Et toutes ces reliques étaient réunies dans un coffre-fort à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, l'évêque, a accepté de nous les prêter pour quelques heures. Mais attention, il fallait qu'on ait pour cela toute une brigade de sécurité autour. Bon. On était avec cette brigade, on les a installés à l'endroit où Saint-Louis voulait qu'elle soit. On les a remis là. Bon, C'était le soir, on s'est dit, tiens, ça serait quand même pas mal si en même temps on voyait les magnifiques vitraux de la Sainte-Chapelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des projecteurs tout autour de la Sainte-Chapelle pour éclairer d'extérieur, ça sera magnifique. Ce que l'on fait, on nous donne les moyens, donc tous les projecteurs possibles, oh, magnifique, sublime, bon, très bien. Tout ça pour 3 minutes dans l'émission, 3 minutes, bon. Avec évidemment toute la sécurité nécessaire dans la Sainte-Chapelle, partout, enfin, c'était insensé. Aujourd'hui, vous arrivez la tête enfarinée et vous dites à un directeur de programme, voilà, j'aurais fait la Sainte-Chapelle. Il vous regarde avec des grands yeux, il dit, sortez, vous êtes fous. Mais bon, c'est ça.
Il faut que ça fasse vendre de la pub avant tout, c'est ça aujourd'hui malheureusement.
C'est plus du tout pareil.
Bon. Alors ça ne vous empêche pas d'aller dans ces émissions-là, vous y prenez quand même du plaisir, vous y allez vraiment avec ce regard, un peu ce second degré, ce détachement en tout cas aujourd'hui.
Oui, mais on peut encore, je vais peut-être le prouver l'année prochaine, on peut encore aujourd'hui avoir des idées très simples, des idées qui sont dans les moyens de la télévision d'aujourd'hui et qui pour autant n'ont jamais été faites. Et je ne vous dirai pas l'idée en question parce que je n'ai pas envie de me la faire piquer, mais je peux vous dire que j'ai une idée à laquelle je crois beaucoup et que je vais présenter à un producteur pas plus tard que la semaine prochaine.
On voit qu'il y a donc 60 ans de carrière, mais encore plein d'idées dans la tête. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un capital sympathie. Moi, je le constate avec ces rencontres avec le public, toutes générations confondues. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous vivez au quotidien. Vous avez cette simplicité, cette proximité. Les gens ne s'y trompent pas et ils viennent vous voir comme presque un membre de la famille.
Oui, oui, ben, bien sûr. Les gens qui vous aiment, forcément, ils ont tendance à les considérer comme des copains. C'est normal. Bon. Ils sont là, ils ont plaisir à vous voir, c'est tout à fait logique. Nous ayons le même plaisir de l'autre sens. J'ai jamais compris les gens qui du bout de l'œil font « Non, j'ai pas le temps, foutez-moi le camp. » Je dis « Mais qu'est-ce que ces gens font là? Comment peuvent-ils avoir des relations avec le public alors qu'il faut d'abord le respecter, ce qui est quand même déjà essentiel, et ensuite participer à sa vie, puisqu'on rentre à l'intérieur des foyers, puisqu'on est au contact des plus intimes moments de ces gens-là. Il faut rendre ce qu'ils nous donnent et donc tout naturellement s'intéresser à ce qu'ils vous racontent. Et il y a souvent des choses très intéressantes qu'ils vous racontent. C'est idiot de passer à côté.
Studio Magique jusqu'à 18h, Sébastien Lecoeur.
Pierre Belmar est notre invité dans Studio Magique aujourd'hui sur Fréquence Magique. On l'a dit depuis tout à l'heure, vous avez fait énormément de choses. Si vous ne deviez garder qu'une seule des catégories dans lesquelles vous avez exercé, que ce soit la télévision, la radio, la littérature dont on va parler dans un instant, qu'est-ce que ce serait, même si c'est compliqué, parce que je suppose que vous êtes passionné par tout ce que vous avez pu faire.
Je dirais que les deux choses qui m'ont le plus passionné, c'est tout l'aspect fantastique des histoires que nous racontons, l'aspect fantastique, hein, bon, pas criminel, je dis bien fantastique. Ça peut parfois être une affaire criminelle, mais il y a une notion de fantastique dedans. Bon. Donc ça, j'ai rencontré des histoires absolument incroyables et sidérantes. Et j'ai été très passionné par cela. Et puis alors la deuxième chose, parce qu'on l'a fait avec Jacques Roulant, qui était un maître de la chose pendant des années, mais pas du tout comme on le fait aujourd'hui, et d'une manière, je crois, très sincèrement, plus innovante et plus intelligente, c'était la caméra invisible qui a été quelque chose de formidable. J'ai le souvenir d'un sketch qu'avait imaginé Jacques. On était sur l'esplanade des Invalides et il y avait Jacques Legras, bien sûr, qui était là, qui était notre animateur. Et il a arrêté les gens et il leur disait, voilà, je voudrais faire une interview avec vous pour la caméra invisible. Vous connaissez la caméra? Bien sûr, bon. Alors regardez là, il y avait un pied sans caméra dessus, rien, bien entendu. Alors, vous voyez, c'est la caméra, elle est invisible, vous voyez, vous regardez par là, très bien, et j'ai mon micro, qui est invisible aussi, bien entendu, et les gens rentraient dans ce jeu totalement absurde, et c'était formidable, parce que les uns prenaient ça complètement au second degré, d'autres au premier, mais peu importe, c'était drôle, c'était sympa. On a fait des choses dans cette émission qu'on n'a plus jamais vues dans les autres exercices utilisant cette même mécanique, dirons-nous, mais qui n'ont absolument rien à voir. Donc on a cette chance d'avoir connu une période pour cette forme d'art tout à fait exceptionnelle. Je citerai en plus de ça quelque chose qui n'est passé qu'une seule fois à la télévision, parce que la dame à qui est arrivée cette aventure, qui est une de nos aventures, n'a pas voulu qu'on la diffuse plus que ça, et pourtant c'était tout à son honneur. Une dame, elle sortait d'un lieu très officiel. Bon, je ne sais plus si c'était un palais quelconque de l'État. Bon. Et le gras a été arrêté devant le palais en question, en tenue de chauffeur de taxi, dans son taxi. Et la dame monte donc tout naturellement dans son taxi, et elle lui indique un chemin. Bon. Et à ce moment-là, le gras, c'était sa mission, dit « Madame, voilà, je suis content que vous ayez dans mon taxi, j'ai une chose un petit peu difficile à vous demander, mais je ne sais pas lire. Et est-ce que vous pourriez me lire la lettre que m'a envoyée ma femme hier ? Elle habite Nantes, nous sommes loin l'un de l'autre. Est-ce que vous pourriez me faire ce plaisir ?»« Mais oui, dit la dame, bien entendu, je voudrais votre lettre. » Prends la lettre, et là, elle tombe sur une lettre qui est épouvantable. C'est-à-dire, alors espèce d'imbécile, hein, maintenant que tu n'es plus là, qu'est-ce que je m'amuse avec tous tes copains ? Ils passent dans mon plumard tout le temps. Enfin bon, une chose épouvantable. Et là, la dame prend un temps et fait « Mon chéri, je ne sais quand tu reviendras, je serai tellement heureux que tu sois près de moi aujourd'hui. » Une magnifique lettre d'amour. Elle l'invente au fur et à mesure. Formidable ! Formidable ! Ah, on pleurait, vous voyez ce que je veux dire ? Extraordinaire, bon. Alors, comme toute émission de caméra visible, vous êtes obligé de demander l'autorisation à la personne après. Bon, alors on lui demande, et elle dit non. On dit, mais attendez, c'est pas possible. Vous êtes magnifique, vous êtes une héroïne. Bon, pourquoi vous refusez ? Ah non, je veux pas que ça. Ah non, écoutez, vous avez un compagnon, un mari ? Oui, mais écoutez, on va appeler votre mari, puis on va lui demander. Alors, ils sont venus tous les deux. J'ai dit, voilà, madame vient de participer à ça, vous allez le voir. Monsieur, vous nous direz si vous trouvez votre femme ridicule. Alors, ils ont accepté qu'elle n'était pas ridicule du tout, bien entendu, mais ils n'aimaient pas la publicité, enfin bref, bon, qu'il pouvait y avoir autour de ça, ils nous ont autorisé une seule diffusion. Mais c'est une très belle histoire, bon, c'est magnifique.
Un joli collecteur. Et ce côté absurde, vous le retrouvez un peu aujourd'hui quand vous avez participé avec Christophe de Chavannes-Cadet, Olivier ou Cyril Hanouna plus récemment. C'est ce petit grain de folie qui vous plaît encore dans l'aventure télé.
Oui, oui, bien sûr. Il y a quand même cette sorte de forme d'humour qui est quand même agréable à faire, ou enfin où on est l'heureux participant. Non, il y a beaucoup de choses encore amusantes à faire, la question n'est pas là. Même, vous savez, bon, je viens de faire une signature, je ne sais pas, ça a duré 2-3 heures, là, bon. Mais c'est très intéressant parce que quand vous avez justement le contact avec les gens, ils vous disent des choses très brièvement, mais ils vous disent des choses. Et c'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. J'ai jamais, moi, été inintéressé par ce qu'on a à me dire. Et c'est peut-être cette sorte de contact qui fait que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui, malgré mon grand âge, l'affection de ce public, voilà.
Fréquence magique. 17h30, 18h, bienvenue au Studio Magique. Studio Magique, Sébastien Lecoeur.
On termine notre rendez-vous avec Pierre Bellemare, Studio Magique, consacré donc à cette carrière, mais aussi à ce livre Trahison, donc co-signé avec Jean-François Namia, je le disais, chez Flammarion. D'abord, juste avant de parler du livre en soi, d'où ça vous est venu cette passion pour raconter, puisqu'on sait que vous êtes un conteur, c'est surtout comme ça qu'on vous connaît. D'où ça vous est venu et pourquoi cette thématique, on l'a dit, du fantastique, notamment pour généraliser un peu ?
Alors, ça nous est venu avec Jacques-Antoine, puisque l'origine, c'est Jacques-Antoine et moi qui avons créé cette émission. Parce qu'à l'époque où nous avons créé cette émission, la radio, on faisait encore ce qu'on appelle de la mise en onde. C'est-à-dire, on mettait en scène l'histoire qu'on racontait. Alors, il entra par la porte. Oui, oui, boum, la porte s'ouvre. Bon. Et il vit une chose tragique. Oui, bon. Donc, il y avait de la musique, des bruits, des machins, etc. Bon. Et on n'entendait plus quasiment le compteur. Alors, on a décidé de ne plus rien faire, c'est-à-dire d'avoir un compteur sans aucun bruit autre que sa voix. Par contre, et ça c'était la grande idée de Jacques, en marquant des temps.
L'importance du silence.
Voilà, l'importance du silence. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a marché, ça a été un succès considérable. Et bon, ça a marqué beaucoup cette époque. J'ai raconté des histoires pendant 14 ans et c'était un grand plaisir pour moi, je crois que c'était un grand plaisir aussi pour ceux qui m'écoutaient. Bon, enfin, disons, ça serait prétentieux de dire ça, mais je pense que j'ai eu tellement de témoignages de cela que je crois que je peux le dire. Voilà, ça c'est un moment fabuleux, quoi, parce que ça... On a fait quelque chose que personne n'avait l'idée de faire, c'est-à-dire simplement parler à la télé, gentiment, en racontant une histoire qui vous passionne, voilà.
Et que vous racontez ensuite dans des livres. Si mes chiffres sont bons, c'est quoi ? C'est plus de 80 livres, plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans toute votre carrière ?
À peu près, oui. On frôle les 100 aujourd'hui.
Ça fait plaisir et de voir que le succès est toujours là, même après 100 tomes.
Toujours là.
Alors celui-ci, ce sont les trahisons. En quelques mots, vous racontez l'histoire de personnages célèbres ou non qui ont trahi. Le but, c'est quoi? C'est de raconter évidemment des histoires, mais aussi de comprendre peut-être comment on peut, peut-être nous-mêmes, un jour, en arriver à trahir ceux qui nous sont proches.
Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ça. Alors, il y a évidemment les trahisons par conviction politique. C'est-à-dire la personne va aller dans le camp adverse, va se faire passer pour quelqu'un du camp adverse, et va trahir évidemment ce camp qu'il n'aime pas pour son camp à lui. Bon, ça c'est... On peut respecter ça, parce que c'est l'espion, c'est bon, bien, pourquoi pas. Et puis il y a la trahison monstrueuse, quoi, c'est-à-dire la trahison de l'amitié, la trahison de l'amour, qui est hélas la plus fréquente. Toutes ces trahisons à ras du sol, qui n'ont aucun intérêt, mais qui ont parfois un intérêt dramatique considérable, parce qu'elle provoque des réactions absolument inimaginables. Donc c'est ce qui m'a passionné dans cette rubrique des défauts humains et pourquoi on a décidé d'en faire un bouquin. Voilà.
Et à titre personnel, la trahison, c'est quelque chose que malheureusement vous avez eu à côtoyer, vous avez pu réussir à passer au travers des mailles du filet, ou alors vous ne vous en êtes pas encore rendu compte?
Non, j'ai pas eu de... Dans mon métier, je n'ai pas eu franchement de traître. Vous voyez, c'est-à-dire de gens qui m'ont... ou jouer de mauvais tours en me faisant croire ceci ou cela. Je n'ai pas eu ça. Je n'ai été trahi qu'une seule fois, par un collaborateur d'ailleurs. Nous sommes partis en vacances après avoir fait toute une maquette d'une émission passionnante sur les trésors qu'avait emmené un bateau à l'époque de Louis XVI. Louis XVI avait un certain trésor personnel et il a fait quitter la France à ce trésor par un bateau qui a remonté la Seine. Et il se trouve que ce bateau a coulé en Seine et que son épave n'a jamais été remontée. Bon. Donc c'était intéressant de raconter cette histoire, parce qu'elle est quand même très étonnante. Alors on part en vacances, le pilote était fait, etc. Et nous avons appris à notre retour de vacances que ce jeune homme, un traître donc, avait été présenté le projet comme synthéticien à une radio. Monstrueux, comme on peut. Alors là, vraiment, c'est la seule fois où j'ai désigné la sortie, vraiment avec un ton très énergique, en disant... En deux minutes, vous êtes parti parce que sinon, je vais vous botter le derrière.
Voilà. En tout cas, là, la sortie, vous n'êtes pas prêt de la connaître. On le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des projets encore plein la tête. Donc, on vous donne rendez-vous à la radio, à la télé, sûrement également dans les rayons des librairies pour encore plein de belles aventures.
Oui, mais merci. J'espère que ça durera encore longtemps.
Merci Pierre Balmer d'avoir été avec nous, en tout cas.
Merci.